Et Dieu vit que cela était bon. Pour mettre en résonance le texte biblique de la création du monde avec le discours scientifique sur l'univers. Une émission proposée par Ivar Drouel.
Dans ce tout premier chapitre de la Genèse que l'on explore durant ce temps pascal, dans ce grand poème de la création du monde, nous voici donc au deuxième jour, et l'eau apparaît. Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, nous écouterons le texte dans un instant. L'eau est une matière à rêver, dans son murmure elle nous entraîne doucement vers des rêves, vers des sommeils qui sont toute confidence, a écrit Gaston Bachelard. Et nous allons tenter de continuer le dialogue entre ce texte biblique, magnifique, et la réflexion scientifique qui se déploie au sein des instituts et des laboratoires au service de la compréhension de l'univers et du vivant. La science est un enjeu pour nos sociétés. Et on a vu ce vendredi 7 mars les scientifiques du monde entier se lever, tous pour la science, stand up. À Toulouse, comme à Paris, les chercheurs se sont retrouvés en soutien aux chercheurs américains qui luttent pour la défense de la science. Depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, ils sont confrontés à des coupes budgétaires dramatiques, licenciements massifs, programmes gelés, interdiction de communiquer avec des journalistes, de se déplacer dans des congrès scientifiques, de publier des travaux, en particulier sur le changement climatique. Les chercheurs américains font face à une attaque sans précédent. Valérie Masson-Delmotte, chercheuse reconnue en sciences du climat, a déclaré « La science est devenue une cible ». Je parle aujourd'hui d'obscurantisme, rendre inaccessibles des connaissances scientifiques et propager la désinformation. L'ensemble de ces attaques est d'une gravité inédite dans une démocratie. S'interroger sur le monde est sûrement une démarche qui anime les hommes depuis toujours. On ne peut pas, on ne doit pas y faire obstacle. Et le texte biblique, qui bien sûr ne propose pas une démarche scientifique, est déjà quand même un manifeste de l'intelligibilité du monde. Une rationalité lumineuse traverse ces textes, dit Jean Piersonnet, jésuite, dans un essai publié en 2009. Plus loin, cet auteur précise « Loin d'être une explosion de puissance aveugle, la création est une action qui s'articule progressivement dans une séquence ordonnée où s'énonce un dessin. Il y a la séparation des choses, il sépare la lumière des ténèbres, il sépare les eaux du haut avec les eaux du bas. Il y a mise en place des éléments du cosmos, à partir de l'informe et de l'indéterminé s'organise progressivement un monde différencié. L'acte créateur, poursuit-il, n'est pas un processus aléatoire ou une extravagante déperdition d'énergie. Le geste divin, comme le manifeste le narrateur, se déploie entre commencement et achèvement, et dans une série, jour 1, deuxième jour, troisième jour, qui apparaît progressivement dans sa complétude, celle des 6 jours plus 1. Enfin, découvrons-nous, au terme du récit, Dieu achève ce qu'il avait précisément entrepris de créer à l'origine, le ciel et la terre. En d'autres termes, le processus s'inscrit dans l'intelligence d'un dessein, dessein qui préside à chacun de ces moments. Écoutons le texte biblique. Dieu dit « Qu'il y ait un firmament au milieu des eaux et qu'il maintienne les eaux séparées. » Et il en fut ainsi. Dieu fit le firmament. Dieu sépara les eaux qui sont sous le firmament d'avec les eaux qui sont au-dessus. Dieu appela ciel le firmament, et Dieu vit que c'était bien. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Regardons maintenant comment le peintre Escher, qui nous accompagne dans les différents épisodes de la création, comment il traduit ce deuxième jour? Le dessinateur nous propose une vision de puissance, mais sans violence, me semble-t-il. Il y a l'eau d'un océan déchaîné, des nuages lourds et une pluie serrée qui relie le ciel nuageux à un océan animé. C'est une puissance qui s'organise, le souffle est en action. On pense bien sûr au déluge qu'affrontera Noé lors de la seconde création par ce flot qui submergea le monde pour le renouveler. Et avec ces images en tête, prenons le temps aujourd'hui d'écouter Schoenberg dans ce prélude pour orchestre et chœur. On va l'écouter en entier. Il dure 5 minutes. Écoutons soit comme une méditation, soit comme un voyage sonore. Laissons venir les images de ses forces et de ses formes qui évoquent l'univers en construction. Le prélude que l'on vient d'entendre est une composition de 1945. C'est le prélude d'une œuvre contributive originale, Genesis Suite, de Nathaniel Schildkraut. Une œuvre multiforme qui réunit des compositions d'autres compositeurs, dont Stravinsky. Très expressif, ce prélude offre une grande diversité de couleurs musicales, un impressionnisme sonore. Bien sûr, il y a eu le chaos de la guerre 45, mais il y a la lumière. On est au début de la création et l'univers devra prendre forme. Il est en construction. Schönberg est un compositeur théoricien autrichien, né en 1874 à Vienne et mort en 1951 à Los Angeles. Et on sait qu'il a posé les fondements de la musique atonale. Il inventa le dodécaphonisme qui aura une influence marquante sur la musique du XXe siècle. Après ce prélude de Schönberg, orienté à l'évocation de la Genèse et de la création du monde, revenons à ce deuxième jour, celui de la séparation des eaux. Choisir l'eau au départ de la création est un choix pertinent de l'auteur biblique, car l'eau est un élément fondamental de la vie. L'eau est à la fois une puissance destructrice et une force de vie. Cette dualité est au cœur de nombreuses réflexions philosophiques, spirituelles et poétiques, comme celle de Bachelard. L'eau est essentielle. Elle irrigue les terres, soutient la croissance des plantes, c'est une condition nécessaire à toute forme de vie. Dans un sens spirituel ou symbolique, elle est souvent associée à la pureté, au renouveau, à la fécondité. Mais l'eau peut aussi être une force implacable. Les inondations, tempêtes et tsunamis, elle peut détruire tout sur son passage, rappelant la faiblesse de l'homme face aux forces de la nature. Le déluge est un exemple symbolique de cette dimension punitive et purificatrice. Dans les traditions amérindiennes, la terre n'est pas simplement un lieu où vivre, mais une entité vivante, une mère nourricière qu'il faut honorer et protéger. Et l'eau, en tant que sang de la terre, y joue un rôle vital. Chaque rivière, lac ou source est perçue comme une veine qui maintient l'équilibre et le bien-être de tous les êtres vivants. Ce respect profond pour l'eau et la terre est souvent célébré dans ces traditions. Cette tradition invite également à la responsabilité. Prendre soin de la terre, c'est prendre soin de soi-même, de ses proches et des générations futures. C'est une manière de rappeler que les humains sont les gardiens de cette nature qui leur est confiée. On retrouvera cela aussi dans la tradition biblique, mais attendons le sixième jour. Gaston Bachelard, philosophe français célèbre pour ses travaux sur la science et l'imaginaire, a écrit de nombreuses réflexions sur l'eau et sa symbolique. Il y a le livre « L'eau et les rêves » publié en 1942. L'eau est la matière d'un rêve sans substance. Elle est une invitation à un voyage immobile. Pour Bachelard, l'eau inspire une rêverie profonde et ambivalente. Elle est un miroir de l'imaginaire où se mêlent des sentiments de sérénité, mais aussi d'inquiétude face à son caractère imprévisible. Et la science, que dit-elle de l'eau ? L'eau est un élément essentiel à la vie sur Terre, on l'a déjà dit. Pourtant, les scientifiques pensent que la jeune Terre en était dépourvue à sa formation. Située trop près du Soleil, notre planète aurait en effet été trop chaude pour conserver de l'eau à son origine. Les théories actuelles suggèrent donc un apport d'eau provenant de l'extérieur, intervenu au cours des 100 premiers millions d'années de l'histoire terrestre. Jusqu'à présent, la théorie dominante supposait que des corps glacés, similaires à des comètes, avaient percuté la Terre, apportant ainsi l'eau. Cependant, ce scénario nécessite que des mécanismes dynamiques complexes envoient ces objets glacés vers la Terre à un moment précis et en quantité suffisante. Pour le moins aléatoire, ce scénario est questionné quant à sa robustesse et sur son universalité à travers tous les systèmes extrasolaires. Sur la base de données précises, récentes, issues de mesures isotopiques réalisées dans l'atmosphère de la Terre, ainsi que d'observations récentes d'astéroïdes, un nouveau modèle d'évolution de la ceinture d'astéroïdes a pu être mis en place, puis testé sur les données terrestres. En complément, des observations a été réalisée à l'aide du radiotélescope ALMA pour tester l'universalité de ce nouveau mécanisme d'apport d'eau. La nouvelle étude propose un mécanisme alternatif, moins aléatoire et ne nécessitant pas d'impact direct avec la Terre. L'eau sur la Terre est une histoire qui remonte à des milliards d'années. Elle est apparue sur notre planète il y a probablement environ 4,5 milliards d'années, peu après la formation de la Terre. Et maintenant, la Terre, c'est la planète bleue, avec 71% de sa surface recouverte par les océans. L'océan, c'est un poumon, un élément clé de l'équilibre climatique terrestre. Mais c'est un élément bouleversé par les activités humaines et les gaz à effet de serre. Écoutons Catherine Jandel, océanographe toulousaine, qui a conduit de nombreuses recherches sur les océans du monde et qui alerte sur ce qui se passe dans les océans et qui en décrit les conséquences.
Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient tous les étés en Bretagne Nord. On avait une maison et j'ai conçu comme ça l'amour et de la pêche et de la navigation et de la mer d'une manière générale. Les eaux de surface de l'océan s'acidifient. Et ça résulte du fait que le gaz carbonique qui est émis en excès par les activités humaines dans l'atmosphère pénètre dans l'océan. Quand il pénètre dans l'océan, il se dissocie. Et en se dissociant dans cette réaction avec l'eau, il libère des ions H+. Pour comprendre, c'est très simple. Lorsque l'on veut détartrer une cafetière, on va utiliser du vinaigre blanc. Le vinaigre est très acide et le vinaigre dissout le calcaire. Donc si on acidifie les eaux de surface de l'océan, eh bien ça impacte le développement des petites algues calcaires, des petits animaux calcaires, des coraux, des huîtres, des moules. Tous ces organismes vivants ont des coquilles calcaires et ils vivent dans les eaux de surface de l'océan, celles qui sont acidifiées par la dissolution du gaz carbonique. Et c'est déjà extrêmement critique dans certaines régions de l'océan. La meilleure solution en ce qui concerne l'acidification de l'océan, mais c'est la même pour le réchauffement climatique, c'est que la meilleure molécule de gaz carbonique, c'est celle qui reste sous terre, sous forme de carbone, donc de limiter le plus possible les émissions de gaz carbonique.
Longtemps, nous avons considéré l'océan comme un espace qui pouvait tout supporter. Non, il est fragile. Et son rôle est si important qu'il doit mobiliser notre attention. À Nice, en juin 2025, se tiendra la conférence des Nations Unies sur l'océan. Le thème principal est accélérer l'action et mobiliser tous les acteurs pour conserver et utiliser durablement l'océan. Cet événement réunira des gouvernements, des scientifiques, des ONG et d'autres parties prenantes pour discuter de la conservation et de l'utilisation durable des océans. Pour conclure ce deuxième jour, plongeons quelques minutes dans ce monument de sensibilité et d'évocation, La mer de Debussy, un enregistrement de 1964, l'orchestre de Berlin dirigé par Karajan. La mer est cette œuvre symphonique de Claude Debussy, créée en 1905 à Paris. Et nous avons écouté De l'aube à midi sur la mer. Quelle évocation puissante de cette mer à l'atmosphère si changeante, le flux et le reflux des vagues, de la lumière à l'aube. Comment conclure ? Les eaux du haut et les eaux du bas, c'est la première structure présentée dans le texte de la Genèse. Proposition d'une méditation sur cette dualité. La douceur et le rêve, la force et l'énergie. Nous ne sommes qu'au deuxième jour de la création et déjà, nous voilà concernés. Regardons avec attention cet élément si quotidien, si indispensable. Veillons à ce que l'eau reste ce bien commun, l'eau si précieuse, trésor à respecter et à partager. Et Dieu vit que cela était bon. Et le troisième jour déjà se prépare. À bientôt.